Yves Dutheil est notre invité sur Vivacité. On a beaucoup de plaisir à l'accueillir. Bonjour Yves.
Bonjour, merci de votre accueil.
Vous venez nous parler de votre nouvel album, Fragile,
oui.
Avec les deux premières lettres entre parenthèses. Parce que dans Fragilité, il y a agilité, c'est ça?
Oui, d'une certaine manière, on est un peu obligé d'inventer des pistes pour survivre dans un monde qui nous agresse et dans lequel on est fragilisé. Mais en même temps, c'est aussi cette sensibilité particulière qui nous rend aptes au bonheur en particulier.
Mmh. Vous dites que la fragilité, c'est une force, finalement, une force intime.
Oui. Je le pense très sincèrement, parce qu'être conscient de ses faiblesses, c'est aussi pouvoir réagir, c'est aussi être moins vulnérable, tout en restant ouvert, sensible. Parce qu'il y a évidemment, on a longtemps eu cette culture de la cuirasse, de monter des murs d'enceinte, de s'enfermer, de se protéger, et puis de ne voir le monde qu'à travers des meurtrières. Mmh. Et puis, je pense que c'est une époque révolue. Parce que les frontières tombent, parce que... En même temps, les frontières tombent, mais regardez comment ça se passe aux aéroports. Vous n'avez jamais autant ressenti les frontières qu'aujourd'hui. D'une certaine manière, le monde s'ouvre. Et il n'a pas fini de s'ouvrir. Il est encore assez fermé, je trouve. Et il y a un travail à faire pour arriver à se rendre plus... à s'exposer, en se sentant moins vulnérable, tout en gardant cette sensibilité. C'est compliqué, c'est pas un truc aussi simple que simplement s'ouvrir. Faut avoir la confiance, faut aimer. C'est aussi se rendre vulnérable à ceux à qui on s'offre, tout en sachant qu'on est exposé, menacé. Donc il y a un vrai travail de réflexion, un travail de construction. On abat le mur de Berlin, mais on doit reconstruire quelque chose derrière.
Et tout est à faire.
Et on doit le faire avec agilité et intelligence pour essayer que ça marche.
La fragilité, c'est aussi le fil conducteur de ces 12 nouvelles chansons.
Oui, parce que je crois que, très modestement, je suis fragile. J'ai cette fragilité en moi à cause des épreuves qu'on a pu traverser, des moments difficiles qu'on a pu connaître. Et puis en même temps, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit rester fermé, se recroqueviller, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une source d'inspiration? Et c'est une source d'inspiration, parce que je pense que même dans le pire, on trouve le meilleur. Il y a des gens qui rencontrent l'amour en milieu de la guerre, donc ils sont dans le pire, et puis d'un coup, ils connaissent le meilleur.
Une petite étincelle.
Ouais.
Ouais.
Et ce disque-là, je crois, toutes les chansons sont le reflet à la fois de cette fragilité, ça parle du tsunami. En une fraction de seconde, tout peut basculer. Notre métier est aussi fragile, nous-mêmes. Il y a une chanson qui s'appelle Fragile, qui est dédiée à ma fille. Si j'étais ton chemin, c'est la fragilité du destin d'un enfant. Et qu'est-ce qui va devenir et sous quel regard est-ce qu'il va grandir? Est-ce qu'on est capable de le mettre sur son propre chemin ou est-ce qu'on ne le met pas un peu sur le nôtre? Et est-ce qu'il ne va pas vivre à côté de son rêve à cause de notre amour qui le guide un peu trop? On peut mener des gens sur un chemin sans forcément les conduire. Il y a Véronique Sanson qui est l'emblème de la fragilité aussi.
Ouais.
Non, je crois que toutes les chansons...
Avec une force,
Avec une
Véronique,
force terrible. Ouais. Et il y a une chanson qui s'appelle « Où vis-tu, Pauline ?» sur les femmes battues. Alors quoi de plus fragile que le destin d'une femme qui est obligée, dans le silence domestique de la maison, de subir sans rien dire à l'extérieur, sans laisser transparaître. Tout ça, c'est vraiment effectivement le fil rouge de la fragilité.
On a le sentiment aussi, le dernier album était sorti un petit peu après les années 2000, donc il a fallu attendre 7 ans, que cet album a été très difficile à concevoir. C'est vrai qu'il y a des situations dans les maisons de disques qui ne sont pas toujours évidentes.
Oui, le métier est en pleine implosion. Mmh. L'analyse qui consiste à comprendre pourquoi et comment en sortir, elle n'est pas complètement faite. Hein. Je pense qu'on est tous en train de réinventer un peu notre métier. Donc il y avait ça, effectivement, qui pèse lourd. Dans le fait de, étant donné qu'on est producteur de l'album et de tous mes albums depuis 1981,
depuis des années, ouais.
Donc ça veut dire que c'est nous qui prenons tout le poids du risque. En même temps, on traverse nous-mêmes des épreuves. En même temps, à travers cette crise du métier, la maison de disques avec laquelle on était à un certain moment, elle a fait faillite. Donc, il a fallu aussi sortir du navire qui était en train de couler pour sauver notre peau d'artiste. Mm-hmm. Et même si on y laisse des plumes, je n'avais pas envie d'y laisser la mienne. Donc, ça fait tout ça, c'est quand même, mettez tout ça dans le creuset. Au moment de se mettre devant la feuille blanche pour écrire un album, pas forcément une chanson, parce que écrire une chanson, c'est plus facile que d'écrire tout un album. Mmh. Michel Fugain m'avait demandé d'écrire pour lui une chanson. J'ai fait ça avec un très grand bonheur. Ça a été d'ailleurs une contribution qui m'a aidé à remonter l'escalier.
Et à se dire, il faut y aller, quoi, il faut retourner au charbon.
Ouais. Ouais. Sans très bien comprendre d'ailleurs pourquoi. J'avais sur le moment du mal à me mettre au travail.
Mais là, ça y est.
Ah bah après, quand ça démarre, ouais. Ça devient une espèce d'obsession.
Totale liberté, vous en parliez, puisque vous êtes aussi votre producteur depuis des années, des années, des années. Donc il n'y a pas de contraintes au niveau marketing. C'est quelque chose qui vous tient aussi très à cœur, ça.
Oui, je me sens un peu résistant, rebelle. J'aime pas du tout être enfermé dans un carcan. C'est pour ça que je suis devenu maire de mon village, c'est pour ça que j'ai agi à certains moments sur des dossiers qui n'étaient pas forcément ceux de la chanson, ceux de l'environnement parfois, ou de la culture. J'ai ce sentiment que même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, l'océan n'est fait que de ces gouttes d'eau et que ça fait parfois des déferlantes qui ont une vraie force. Donc la liberté pour nous, pour Noël et moi, mon épouse et moi, ça a toujours été une espèce d'oxygène pour nous. On en a besoin pour respirer, on en a besoin pour vivre et pour faire ce métier qui, pour moi, n'est rien d'autre qu'un espace de liberté. Je ne peux pas imaginer qu'on me dise ce que j'ai à faire ou ce que j'ai à ne pas faire. J'ai toujours écrit les chansons que je voulais, j'ai toujours chanté ce que je voulais et quand je voulais. Et ça m'a permis d'avoir une liberté de parole et aussi de musique.
Est-ce que l'écriture devient plus difficile avec les années ou bien au contraire vous avez acquis une technique et ça coule un petit peu tout seul ou bien au contraire vous remettez sans cesse le travail sur l'établi?
Je vais vous dire, c'est une question que je me suis beaucoup posée et je trouve très intéressant d'avoir à y répondre parce que c'est justement l'écueil. C'est-à-dire qu'avec l'âge, avec l'expérience, vous avez une véritable technique d'écriture. Et donc on serait tenté de pouvoir s'appuyer sur cette technique d'écriture. Et c'est justement le danger.
Le piège.
Le piège. Savoir qu'entre guillemets, on sait écrire, ce qui ne veut rien dire du tout, ça ne veut pas dire que le contenu de ce qu'on a à écrire soit intéressant. Donc pour moi, c'est une remise en cause permanente. C'est une recherche de nouveauté dans la méthode, de nouveauté dans le propos, dans l'approche, dans l'éclairage. Et pour moi, l'écriture, voilà, c'est cet espace de recherche. Et dans l'album, je dirais que c'est la chanson qui symbolise le plus cette recherche-là, c'est l'hommage à Nougaro. C'est une chanson qui s'appelle La Note Bleue, où j'ai refait peut-être 10 fois le texte.
Trouver le bon mot,
le
sur
bon
la
mot,
bonne note.
Ouais. Ouais. La note juste, le mot juste, l'accord parfait, la note bleue. Voilà, ouais. La recherche. J'ai fini après avoir fait des textes en alexandrin, des trucs hyper travaillés.
À compter les pieds.
Voilà. Ouais. On compte ses pieds en écrivant la chanson à la main, je trouve ça incroyable. Et donc c'est une façon, et j'ai fini par me lever un matin à 7h, j'ai écrit un truc mais d'un jet comme ça, après avoir des mois et des mois travaillé sur plusieurs versions que j'ai jetées, reprises, et puis j'ai écrit un texte complètement désordonné, avec des longueurs de vers complètement hybrides, il était 3 fois plus long que le texte final, mais je tenais mon idée, mon texte et ma formule. Et d'ailleurs, quand j'ai donné ça à Art Mengo pour qu'il fasse la musique, il était très, 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 très embêté parce que ça n'avait ni queue ni tête, ni forme, ni régularité. Mmh. Donc, pour écrire une musique là-dessus, c'était vraiment
un vrai
très difficile. Et bon, à la fin, on y est arrivé. Mais pour moi, c'est le symbole de la remise en cause.
Vous parliez de Nougaro, donc l'hommage à Nougaro, la note bleue clôt l'album. C'est quelqu'un que vous avez croisé, Nougaro, dans votre carrière, dans vos années de métier?
Oui, croisé, c'est le mot.
Oui.
Et croisé et attendri. J'ai rencontré un personnage très douloureux, difficile pour lui de vivre dans cette sensibilité. Et puis quand j'ai découvert ses manuscrits à travers la très belle édition qui a été faite par Textuel, qui s'appelle Les manuscrits de Claude Nougaro, j'ai fait une sorte d'immersion totale dans son univers. Et j'ai vraiment découvert une beauté, une générosité, une grandeur, une dimension qui m'a énormément inspiré et j'ai compris pourquoi j'aimais autant les chansons de Nougaro.
Vous l'aviez vu sur scène, je suppose?
Oui, ouais. J'avais vu. Alors,
là aussi, Nougaro sur scène, c'est une force incroyable, une espèce de truc qui part dans le public comme ça. Il chantait Petit Taureau, c'était ça. Hein.
Mais c'est exactement ouais. Ce que j'allais dire, c'est
ouais,
un vrai taureau sur
ouais,
scène,
ouais.
C'est-à-dire une bête de scène avec une énergie, une force. Il était trapu et rassemblé comme ça. Et puis je l'ai vu danser sur scène. C'est un peu comme ce que je dirais de Raymond Devos avec tout l'excès de Raymond et sa corpulence qui parvenait à être d'une légèreté incroyable. Nougaro, je l'ai vu danser sur scène alors qu'il n'avait pas un physique de danseur quand même. Mais par contre, je me rappellerai toujours au Théâtre de la Ville avoir vu, je ne sais même plus sur quelle chanson c'était, il jouait deux personnages dans la chanson qui dansaient ensemble. Lui était un des deux personnages et le deuxième personnage, c'était le rond de lumière qui se déplaçait sur scène. Et il faisait un ballet avec ce rond de lumière. Et voilà, il arrive sur scène comme un taureau. Il se balade comme ça sur scène et il est à son aise et il balade sa force. Et en même temps, sa souplesse, sa légèreté, puis l'envol de ses mots. Et sur des musiques du Brésil, d'Amérique du Sud, ou d'Afrique, de jazz, de blues. Ouais. C'était un être extraordinairement généreux au niveau de la création.
Yves Dutheil est notre invité aujourd'hui. Son nouvel album s'appelle Fragile. Le grand public, Yves, a peut-être le sentiment qu'il y a eu une absence, alors que ça n'a finalement jamais été le cas. Des concerts sans arrêt, il y a eu l'apparition de bouquins. Vous occupez toujours le terrain, mais de façon finalement assez discrète.
Oui, à ma place. C'est-à-dire, j'ai jamais aimé conquérir, je veux dire, ma place, me faire ma place en jouant des coudes. Donc, j'ai toujours occupé la place qu'on m'a donnée. Quand elle était plus discrète, c'est simplement parce que la création, parfois, a besoin de recul et on a besoin de ne pas être sans arrêt au sommet de la vague, de surfer sur la popularité. Je pense que la célébrité et la notoriété sont deux choses différentes. J'ai toujours préféré la deuxième. Je n'ai jamais perdu le sentiment d'être au cœur des gens. Donc j'ai toujours été suivi. Les concerts ont toujours été
pleins.
Pleins, voilà, ouais. Remplis. Donc le public était là. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir quitté la scène, d'avoir quitté ma place. C'est parfois le projecteur qui se déplace, la caméra qui se déplace. Et puis tout d'un coup, elle revient. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc l'absence, elle est peut-être mise en évidence par la présence quand elle revient.
Ouais. Mais c'est vrai que je crois que c'est beaucoup le cas en France, peut-être un peu moins en Belgique, où les médias vous ont toujours suivi, le
tout
public est toujours là.
Absolument.
Comment vous expliquez ce décalage entre finalement votre propre reconnaissance dans votre pays et à l'extérieur où elle est plus forte ?
Il y a deux choses, à mon avis, ça tient à la nature du public de Belgique, qui a toujours été différent. Mmh. Je le comparerais au public du Québec, un peu la même aventure. Ouais. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Québec et je n'arrête pas de recevoir des messages. Quand est-ce que vous venez nous voir ? Pareil en Belgique. Et puis, je rends hommage aussi à Françoise Mauque, qui a été ce qu'on appelle dans notre métier notre attachée de presse, et bien plus aussi, un peu plus tard, la productrice de nos concerts.
Qui était la compagne de Raymond Devos.
Qui était la compagne de Raymond. Et qui m'a littéralement déroulé un tapis rouge en Belgique par le respect qu'elle avait pour mes chansons et en même temps le respect qu'elle inspirait aux médias belges, qui fait que je n'ai jamais eu le sentiment du moindre décalage entre ma réalité et l'image que les médias en Belgique avaient de mes chansons.
Oui.
Quand je viens faire la présentation d'un album en Belgique, j'ai l'impression d'arriver dans ma famille, j'ai l'impression d'arriver chez des amis.
Bienvenue.
Merci. Et donc, ça s'est transmis au public.
Ouais.
Et cette forme de relation à la fois pleine de respect, pleine de réalité, d'authenticité, eh bien, elle n'a jamais cessé. Elle s'est toujours perpétuée. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment rendre hommage à Françoise, parce qu'elle a été l'artisan de cette image et de cette fidélité.
C'est aussi l'intérêt d'Internet qui a beaucoup d'effets négatifs, mais aussi positifs. Vous avez développé un site et puis maintenant il y a un blog.
Ça, j'ai le sentiment que c'était le lien avec le public, que ce soit les concerts, le courrier, le message Internet, le blog aujourd'hui qui existe depuis un an, mais qui est extrêmement intéressant par les réactions qu'il suscite, et le lien direct qui n'existait pas avant. Avec les artistes. Avant, on ne savait pas trop où joindre les artistes. Il fallait leur envoyer un courrier qui arrivait à la maison de disques,
qui transmet pas toujours.
Et du coup, on avait vraiment l'impression d'être relié de façon aléatoire. Là, la relation, elle existe. Elle n'est pas toujours connue, parce qu'on on ne sait pas s'il existe un site, un blog, si c'est le truc officiel ou pas, etc. Et là, c'est nous qui sommes l'artisan de cette liaison, et on y met ce qu'on veut. Et en particulier, ce que nous, on y met, et forcément la réalité puisée à la source, puisqu'on peut dire ce qu'on veut sur ce qui on veut sur Internet. Mais quand c'est la personne elle-même qui parle, on a tendance à la croire davantage. Or, ce blog, c'est nous qui le manipulons en direct. C'est nous qui recevons en direct les messages qui nous y sont adressés. Et c'est nous qui répondons. Donc, soit par une réponse personnelle, soit par un article qui répond, comme là, aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai déposé un article qui s'appelle « Merci ». Il y avait tellement de messages, je ne pouvais pas répondre personnellement à tous. Et je crois que ça, c'est justement la médaille du revers. Internet, ça a été longtemps considéré comme notre maladie honteuse. C'est-à-dire, c'est ce qui a provoqué ce sentiment que la gratuité est normale concernant la musique. On a juste oublié de demander aux créateurs de la musique s'ils étaient d'accord. On ne fait ça dans aucune autre profession. Mais nous, on a eu droit à ça. Mmh. Donc, on pouvait à juste titre trouver qu'Internet était négatif parce que ça induit une certaine idée qu'un disque qui coûte de l'argent à produire, eh ben, il faut juste le donner à tout le monde. Et puis, bah, s'il n'y a pas d'économie possible de notre métier, comme il y a une économie évidente dans tous les métiers, et que bah, une marchandise, un objet, une œuvre artistique, bah, un tableau, personne ne viendrait à l'idée de personne de dire qu'un peintre doit donner ses tableaux. Mmh. Mais par contre, un chanteur, il doit donner ses chansons, ça semble évident pour tout le monde, sauf pour lui et pour le producteur de l'album. Et en même temps, aujourd'hui, bah, on a ce blog qui est l'expression pour nous du fait qu'Internet peut aussi nous apporter la solution.
Oui, c'est ça, être quelque chose de positif, quoi.
Voilà.
Bon, si vous tapez yvesduteil.com, vous arrivez sur le blog. Hein.
Vous tapez Yves Duteil.
Ben voilà. Vous avez raconté d'ailleurs la genèse de cet album, plage par plage, sur le blog.
Oui. Ça, c'était une façon...
C'est aussi une démarche artistique, ouais. Ça, d'une certaine manière.
Je peux dire que ce que j'ai dit sur les chansons, je l'ai écrit comme une chanson. J'ai pesé chaque mot, et donc ce que je dis pour présenter les chansons, c'est vraiment jailli du fond du cœur. C'est justement l'originalité de cette façon de s'exprimer. C'est qu'on est en direct, et on est en direct depuis le début. Depuis l'écriture des chansons, au moment où j'écrivais en Corse, où j'avais le temps de prendre des photos de ce qui m'entourait, d'apporter un petit témoignage de comment j'ai travaillé sur l'album, où je l'ai fait, dans quelle pièce, avec quel piano, avec quelle guitare. Ensuite, l'enregistrement. Alors, j'étais avec mon appareil photo et j'ai photographié tout le monde, le lieu, les ingénieurs du son, les musiciens. Il y a vraiment une espèce de lien d'ambiance qui a suivi la création de l'album, puis la présentation chanson par chanson, puis la sortie, puis les concerts fragiles. Je crois qu'il y a vraiment un lien très, très, très personnel qu'on peut réinventer à travers l'Internet.
C'est Yves Duteil qui est notre invité sur Vivacité. Toute cette semaine, on découvre avec lui son nouvel album, Fragile. Alors sur cet album, Yves, ben, on retrouve les thèmes qui font votre force depuis des années. L'amour, l'enfance et l'engagement.
Tout à fait, oui. Oui, l'engagement dans l'action avec le tsunami. Il y a l'amour avec « Si j'entrais dans ton cœur » ou « Fragile ».
Une chanson pour votre petit-fils, pour votre fille.
Voilà, « Si j'étais en chemin ». Oui, il y a tout à fait tous ces aspects en même temps, comme dans la vie d'ailleurs. Mm-hmm. Dans la vie de tous les jours, on est confronté à des réalités qui sont successivement faites d'amour, de réaction, d'engagement. Et puis l'enfance, elle est au carrefour de toute notre vie, tout le temps.
Mais vous y pensez au moment de la conception de l'album, ou bien ça vient comme ça ?
Ça vient comme ça. C'est-à-dire, les sujets, ils me viennent indépendamment les uns des autres. J'ai envie de parler des femmes qui sont battues par leur conjoint, simplement parce qu'on en a vécu une expérience douloureuse près de nous et qu'on a malheureusement eu à approcher cette réalité. Et en même temps, c'est bien parce que ça donne une voix à des gens qui sont confinés dans le silence. Une chanson celle avec Véro, je trouve que j'avais très envie à la fois de confronter mon univers musical à celui de gens qui ne sont pas forcément réputés pour être dans le même que le mien, donc, et qui pourtant constituent des passerelles formidables, comme Art Mengo ou Jean-Pierre Marcellesi ou Véronique Sanson ou Affiletta, le groupe Corse. Ça vient au fil de l'écriture et c'est avec le recul, finalement, le titre, on ne l'a pas trouvé au début, on l'a trouvé à la fin. Quand on a eu un tableau général de l'ensemble des chansons, et qu'on s'est interrogé sur quel était le fil rouge qui les reliait.
Avec Véronique Sanson, vous en parliez, c'est une belle histoire qui dure maintenant depuis des années. Il y avait eu un duo au milieu des années 90, et puis elle avait partagé la scène avec vous par écran interposé.
Ouais.
Là, vous lui dédiez carrément un texte sur le clavier du grand piano, et c'est elle qui signe la musique avec vous.
Oui, ça faisait longtemps que j'avais envie de collaborer avec Véro pour écrire. Parce que j'ai toujours eu le sentiment qu'on a une culture commune musicalement, même si ce n'est pas évident. Moi, quand j'étais ado, j'avais un magnéto stéréo avec un casque et j'écoutais Blood, Sweat and Tears, j'écoutais Chicago Transit Authority, j'écoutais des choses qui ne sont pas forcément réputées être dans mon univers. Mm-hmm. Queen, des choses qui m'émerveillait vraiment musicalement. On est tous des enfants des Beatles, des Stones, de cette époque, de Paul Naref. Bon, la culture de Véronique Sanson, elle est beaucoup plus américaine que la mienne, mais elle n'est pas aussi différente que ça. Nos musiques en commun, quand on joue ensemble, ben, quand on se met à quatre mains au clavier, ben, ça donne des choses qui sont, qui existent, quoi, qui ne sont pas hybrides, qui sont dans une culture musicale commune. Donc le mettre en évidence, ben, c'était extraordinaire de pouvoir dire, ben, voilà, on a fait une chanson ensemble. Et il ne faut pas croire que dans la chanson, les passages rapides sont de Véro et les passages lents sont de moi. C'est très mélangé.
Parce qu'il y a deux rythmes dans cette chanson.
Parce que je crois que Véro, elle avait envie que je chante rock'n'roll.
Ouais.
Elle me l'a dit. Elle a pas désarmé. D'ailleurs, elle veut vraiment me faire chanter plus, ce qu'elle dit, plus dur. Et en même temps, moi, ce que j'aime chez Véro, c'est son côté large, ample dans les musiques comme Ma Révérence ou Amoureuse ou.
Mais c'est quelqu'un qui a vraiment apporté quelque chose à la chanson française. Elle est de la famille, évidemment, des Berger, Gall, Françoise Hardy. Il y a une espèce de balancement comme ça dans la mélodie qui est un peu irrésistible, quoi. On ne peut que craquer.
Elle swing plus que moi, mais en même temps, on arrive à swinger ensemble. Oui. Donc, il y a un cousinage plus que fraternel. Et je crois qu'il y a vraiment des passerelles évidentes pour moi. J'ai pas fini de trouver des liens comme ça avec d'autres. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Véro dans la composition d'un morceau. Je crois qu'elle, elle a la rage en plus, elle a la force. Elle tape sur son piano. Moi, je fais pas forcément ça. Je tape pas sur ma guitare parce que sinon, je la casse. Mais je suis quand même aussi complètement fan de cette violence de Véro quand on la voit sur scène.
Et on a le sentiment, ces dernières années, que vous êtes en train de vous recréer une famille musicale. Il y a eu la collaboration avec Sanson, avec Michel Fugain. Une envie comme ça de collaboration qui n'était peut-être pas là les années précédentes.
J'en avais envie, mais je crois que j'étais pas prêt. J'étais trop accro à mes propres schémas et j'aurais pas forcément lâché prise comme il est nécessaire dans une collaboration musicale. Et là, j'ai vraiment lâché prise. C'est-à-dire, je me suis laissé emporter dans d'autres univers musicaux parce que je sentais que j'en avais à la fois envie et besoin. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai pu faire avec d'autres jusqu'à présent, c'était comme si c'était juxtaposé. Mmh. Et aujourd'hui, c'est imbriqué. C'est là la différence, je crois. Aujourd'hui, je suis prêt à cette collaboration. Peut-être que j'y étais pas prêt avant.
Et ça bouscule un petit peu le style du Teil habituel. C'est une autre facette, finalement.
Bah, tout a changé, en fait, mine de rien, comme ça. Alors, en même temps, avec le fil d'une vraie fidélité, parce qu'il n'y a pas de rupture, je n'ai pas l'impression que ce disque soit fondamentalement autre que celui d'avant, mais il est différent parce que j'ai gravi des marches dans la collaboration, notamment musicale et de réalisation avec Alain Cluzeau, qui a été aussi une vraie rencontre. Il y a un vrai travail de ma part pour aller vers d'autres musiques, d'une autre façon. J'aurais pu continuer dans mon créneau, mais j'ai eu l'impression de lâcher mes prises. Je suis comme sur la face nord de l'Everest. Et à un moment donné, pour aller un peu plus loin, il faut avoir confiance et lâcher une prise pour en prendre une autre. C'est exactement ce que j'ai fait.
À la réalisation, vous en parliez, on retrouve Alain Cluzeau et Fabrice Ravel-Chapuis, qui ont travaillé avec Benabar, avec Olivia Ruiz. Ils apportent aussi à cet album un autre son. Oui. Et une autre manière de chanter, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. C'était aussi une volonté de votre part, je suppose.
De ma part et de la sienne, parce qu'il a tout de suite percuté sur un problème de confiance et il a établi cette confiance. Et j'ai embarqué, vraiment, au bout d'un certain temps de travail ensemble, très très rapidement. Il y a eu une véritable rencontre entre nous et la construction d'un lien. J'ai retrouvé la confiance que j'avais perdue en studio, au point que j'avais envie d'enregistrer cet album chez nous, peut-être sûrement pour me rassurer, mais si j'avais besoin de me rassurer, c'est que j'avais peur.
Pourtant, vous avez travaillé avec des grands réalisateurs comme l'équipe de Cabrel pour l'album précédent.
Oui, et j'ai beaucoup aimé travailler avec Gérard Bicchialo, et ça s'est très bien passé. Mais en passant à la réalisation avec Alain Cluzeau, j'ai eu le sentiment de franchir encore un étage à l'édifice, des marches à l'escalier. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir avancé encore plus loin. Et je pense qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe qui. Ce n'est même pas que c'était moins bien avec l'équipe précédente, c'est que c'était mieux avec l'équipe suivante. Le hasard des rencontres.
Oui, ça s'est fait comment, cette rencontre? Vous êtes allé les chercher?
Oui, c'est-à-dire, curieusement, l'équipe qu'on avait essayé de rassembler autour de l'album pour des raisons de planning, des raisons matérielles, c'est défaite. On n'a pas pu, les dates, les lieux, on a été obligé de rebâtir quelque chose très, très proche du moment où on avait prévu l'enregistrement. Vous savez, quand dans une vie d'artiste, on doit prévoir un enregistrement, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête les concerts, ça veut dire qu'il faut qu'on se rende disponible. Donc on ne peut pas faire ça n'importe quand.
Que les musiciens le soient
que
aussi.
Ouais. Et du coup, ça s'est fait très vite et très bien. Le hasard parfois fait très bien,
les choses.
Daniel Molko, avec qui on travaille depuis peu sur ce disque, a provoqué la rencontre avec Alain, qui a provoqué la rencontre avec Fabrice Ravel-Chapuis, qui a provoqué la rencontre avec les musiciens. Mm-hmm. Ça a induit le studio, ça a induit tout le reste. Et les musiciens qui ont participé avaient tous moins de 30 ans. Donc c'était toute la génération qui a connu mes chansons petit,
ouais.
Qui a redécouvert la suite un peu plus tard, pour qui enregistrer avec moi était une espèce d'événement bizarre. Et on se retrouvait, moi j'avais 30 ans pendant l'enregistrement, je me sentais pas d'une génération différente de la leur. Et ils ont vraiment donné le meilleur. Et ça a créé une vraie équipe. On s'est retrouvés avec un vrai lien affectif, avec un bonheur de travailler ensemble. Et tout ça fait la sérénité de l'enregistrement. Si je suis aussi posé, si ma voix est aussi calme, c'est que j'ai arrêté de redouter de laisser passer le moment de la bonne prise. Quand on écoute une chanson comme « Ne me quitte pas » de Brel, on se dit « il y a eu un instant, il s'est passé quelque chose ». Et si on passe à côté de cet instant-là, c'était ma terreur d'être dans la bonne prise et de me tromper, puis voilà, c'est passé, puis voilà, on a loupé le coup. Eh bien non, on a inventé une autre manière de travailler ensemble qui fait que tout était rattrapable. À tout moment, on pouvait revenir sur l'enregistrement, l'améliorer et gravir là aussi des marches, étape par étape. Donc j'étais rassuré, serein, et je trouve que ça se sent.
Et cette équipe a apporté d'autres instruments aussi qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans vos chansons.
La clarinette, oui. La scie musicale, le vibraphone, oui, complètement, le Rhodes, oui.
Ça ouvre aussi les perspectives, ça.
Ça ouvre complètement les perspectives, ça ouvre l'univers musical et ça amène à un son complètement acoustique avec une technique aussi d'enregistrement très particulière. Alain a voulu que ce disque soit reconnaissable au son, dans la rugosité du son, dans le grain, et il a réussi. Et moi, j'ai embarqué dans cette méthode et j'étais très heureux.
Comment est-ce que vous allez rendre la couleur musicale de ce disque en concert ?
En faisant des concerts fragiles. Aussi fragiles que l'album, que les chansons. Et en étant sur le fil du rasoir. Tout
acoustique ?
Le temps. Totalement acoustique. Ça donne en fait un univers piano et guitare, où je joue du piano ou de la guitare. Et en même temps, en étant accompagné par deux musiciens, pas plus. Chacun joue de plusieurs instruments. Un joue de l'accordéon, de la clarinette ou du piano. L'autre joue du violoncelle, du sax ou du piano. Et ça donne un mélange entre tous ces instruments possibles qui ressemblent énormément à la couleur du disque. On a reconstruit complètement l'ambiance des chansons telles qu'elles sont dans l'album.
Dans cet album, Yves, vous parlez, comme d'habitude, de choses très intimes. Et on a le sentiment que le public est très accroché. Plus on parle de l'intimité, plus le public s'y retrouve.
Oui, c'est exactement ça. J'ai toujours recherché ce côté universel. Et finalement, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus répandu dans l'intimité que dans les grands sujets de société. On n'a pas tous forcément la même une que le journal du soir. Du coup, on partage des choses très personnelles à travers les œuvres artistiques qui en parlent. Et les chansons peuvent parler à la fois des deuils, des bonheurs personnels, des naissances, de l'amour filial, des expériences qu'on a avec les plus proches de nos voisins. Et ça ressemble plus à notre vie que la chute du mur de Berlin ou que les tours jumelles ou que l'Irak, qui en font partie aussi, mais pas au même niveau. Et si on oublie cette partie importante de notre vie dans le reflet que les artistes vont donner de notre existence, eh bien on aura oublié une partie importante de notre existence. C'est à cette partie-là que j'ai eu envie de redonner vie à travers les chansons aussi, autant que dans les événements comme le tsunami qui est présent dans le disque. Je crois que notre sensibilité elle s'exerce dans tout, dans toutes les distances de notre vie, que ce soit les événements lointains ou les événements les plus proches.
Vous croyez que des chansons engagées peuvent faire changer les choses ? Cabrel, dans son dernier album, il y a énormément, je ne sais pas si vous l'avez entendu probablement,
très bel album.
Il y a énormément de chansons concernées, il parle de l'exode africain, etc. Et puis à la fin de l'album, il y a une plage où il dit finalement « les chansons ne servent pas à grand-chose ».
Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, je dis ça autrement. Je dirais qu'on est tous une goutte d'eau dans l'océan, mais que les déferlantes ne sont faites que de ça. Donc finalement, oui, ça sert à quelque chose, mais pas forcément dans
sur
le registre massif où on a l'habitude de s'exprimer aujourd'hui. Je pense que l'intime, c'est quand même aussi une forme... On le voit avec Internet. Les pétitions sur Internet, elles sont comme des vagues énormes tout d'un coup, très rapidement, parce que ce sont des individus qui se regroupent et qui vont dans le même sens, dans un sujet donné. Les chansons, c'est un peu ça. Ça rejoint chacun d'entre nous dans son intimité, mais ça peut aussi rassembler. J'ai eu cette expérience avec La langue de chez nous. J'ai eu cette expérience avec Prendre un enfant, dans les moments où elles ont servi de support aux Marches Blanches, en Belgique, et où elles constituaient des vraies vagues. Donc oui, ça peut constituer un lieu de rendez-vous virtuel où des gens qui pensent d'une certaine manière peuvent se retrouver. Ce n'est pas forcément ce qui va les faire changer d'avis, mais c'est ce qui leur permet de se rassembler. Mmh. Autour
ils
d'une...
se retrouvent dedans.
Comme on se retrouve dans un hymne, mmh. Sauf que les hymnes ne sont pas que guerriers, ils peuvent être aussi autres, la preuve.
Ça fait plus de 30 ans, Yves Duteil, que vous faites ce métier. Il y a eu les disques, les tournées, etc. Vous n'êtes pas lassé de cela ?
Ben
ça
non.
Durera toujours ?
Je ne sais pas si ça durera toujours, parce qu'encore une fois, on est tous fragiles et ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour un milliard de raisons. Mais moi, je trouve toujours la même passion, la même exaltation. Et pendant toute cette période où j'avais du mal à écrire, j'avais le bonheur de chanter. Donc j'avais quand même un plaisir, une motivation pour continuer. Et Noël, qui ne comprenait pas non plus très bien pourquoi j'étais comme ça en panne au niveau de l'écriture et de la création, je me disais, mais si tu as envie d'arrêter, il faut aussi pouvoir avoir la liberté de le dire. Tu as le droit de faire autre chose, tu as le droit de partir dans une autre vie, dans une autre direction.
Comme Brel l'a fait.
Oui. Ouais. Et moi, j'essayais de me poser la question et je répondais non. C'est ça ma passion, c'est ça le bonheur de ma vie. J'étais heureux sur scène, donc je ne comprenais pas en même temps pourquoi dans une partie de l'expression j'avais du mal et dans une autre j'étais heureux. Donc je crois que oui, j'ai toujours gardé cette passion. Et très sincèrement, aujourd'hui, je suis... extrêmement heureux et fier d'avoir un disque nouveau à présenter. Je crois que je serais le plus triste des hommes et des artistes si je n'avais pas cette opportunité aujourd'hui. Je l'ai et je suis vraiment fier et heureux.
Yves Duteil, son nouvel album s'appelle Fragile. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous.
Merci beaucoup.
Et bonne chance pour la suite.
Eh bien, merci. À vous aussi.
À bientôt.
À bientôt.